le magazine des Nations Unies.
Évasion à la prison centrale de Kananga. Parmi les évadés, deux accusés clés impliqués dans le meurtre des deux experts de l'ONU en mars 2017. L'auditorat militaire met tout en œuvre pour attraper les fugitifs, tandis que le procureur de l'ONU s'inquiète. Parité homme-femme, Antonio Guterres en fait son cheval de bataille dans le système des Nations Unies. Une lettre du secrétaire général adressée à tous les staffs onusiens insiste sur la prise en compte du genre à tous les niveaux. Journalisme d'investigation, le concept n'est pas nouveau, mais voilà, ce genre de journalisme n'est pas souvent pratiqué en RDC. Pourquoi et qu'est-ce que le journalisme d'investigation? Quelles sont ses limites et contraintes dans le contexte actuel de la RDC? MAG-UN a approché un professeur d'université dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce scientifique est l'invité de notre magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue à ce 366e numéro de magazine des Nations Unies. Évasion spectaculaire à la prison centrale de Kananga cette semaine dans le Kasaï central. Cinq prévenus, dont deux détenus clés dans le meurtre de deux experts de l'ONU tués dans le Kasaï, ont pris la poudre d'escampette. L'un d'eux a été rattrapé. Pour le procureur de l'ONU, Robert Petit, tout doit être fait pour le rattraper afin que la vérité éclate. Détail avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
L'évasion a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi dernier. Parmi les évadés, deux accusés clés poursuivis dans le meurtre de deux experts de l'ONU, Michael Echarpe et Zaida Catalan, tués en mars 2017. Il s'agit d'Ilunga Lumu et de Tiaba Kanoa. Mais si le premier Ilunga Lumu est toujours en cavale, le second, Tiaba Kanoa, a été rattrapé mercredi 8 mai dans la commune de Langanza. Et c'est, nonobstant, la réticence des habitants à l'arrestation de deux évadés. L'auditeur général de l'armée congolaise explique.
On les a retrouvés en Nganza. La population de Nganza a fait obstruction. On a dû forcer les choses pour récupérer d'abord Tiaba. Et on est sur la piste de Ilunga Lumu. Nous pensons que, comme il est toujours, comme nous le pensions à Kananga, on va finir par les retrouver aussi.
Auparavant, la justice militaire avait lancé des avis de recherche pour le fugitif. Une récompense, 5 millions de francs congolais, avait été promise à quiconque permettrait leur arrestation. Le chef de l'équipe des Nations Unies qui appuie la justice congolaise dans le procès du meurtre de deux experts de l'ONU au Kasaï a regretté mercredi dernier l'évasion des deux accusés. Pour Robert Petit, tout doit être fait pour que les fugitifs soient rattrapés et que la vérité soit connue. Notons que le procureur canadien Robert Petit est attendu le vendredi prochain en RDC.
Le secrétaire général de l'ONU appelle à la promotion de la parité homme-femme au sein des Nations Unies. Dans une lettre adressée cette semaine à l'ensemble des staffs des Nations Unies, Antonio Guterres demande à tout le personnel de l'organisation à conjuguer des efforts en vue d'atteindre l'objectif de l'égalité entre hommes et femmes d'ici 2028. Le condensé de cette lettre dans ce rendu de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Le secrétaire général de l'ONU part d'abord d'un constat qu'il qualifie de dure réalité. Les progrès en matière de l'égalité hommes-femmes sont trop lents à l'échelle mondiale. Cette lenteur est due aux nombreux obstacles qui se dressent surtout sur le terrain où les femmes représentent moins d'un tiers des effectifs. Ces obstacles sont notamment des préjugés enracinés dans les politiques et procédures, l'organisation de missions et les pratiques en vigueur qui sont en fait le reflet d'une conception traditionnelle des rôles respectifs des femmes et des hommes. Or, sans l'égalité hommes-femmes, ni la paix, ni le développement ne sont pleinement possibles, souligne Antonio Guterres. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel que les femmes accèdent aux responsabilités et qu'une représentation équilibrée des sexes soit assurée, estime-t-il. M. Guterres note cependant que des progrès ont été accomplis sur la parité des sexes dans certains domaines, notamment dans la nomination des coordonnateurs et des coordonnatrices résidents, processus qu'il compte poursuivre bientôt au poste de haute direction. Ces progrès sont sans doute le résultat de la mise en œuvre de la stratégie sur la parité des sexes lancée en 2017 et applicable à l'ensemble du système des Nations Unies. Enfin, le secrétaire général compte sur l'engagement de tous les membres de l'organisation afin que l'objectif d'assurer la parité des sexes à tous les niveaux soit atteint d'ici 2028.
Clôture jeudi dernier à Kinshasa des activités commémoratives de la Journée internationale des sages-femmes. La cérémonie a été présidée par la première dame de la RDC. Madame Denise Nyakeo Tshisekedi a rendu hommage aux sages-femmes pour leur dévouement et abnégation car c'est elle qui aide les femmes à donner la vie. La journée a été ponctuée aussi par d'autres interventions dont celle du représentant de l'UNFIA en RDC. Le point avec Jean-Pierre Elali, Coco.
Le camp colonel Tchatchi a servi de cadre à la manifestation sages-femmes tout en rose, leur tenue traditionnelle et aussi des épouses des militaires, très nombreuses, étaient au rendez-vous. Des officiers, sous-officiers et soldats ont assisté également à cette cérémonie. Très ovationnée, la première dame a eu de mots justes pour féliciter les sages-femmes, tant leur profession est noble et mérite une attention particulière et soutenue.
Oui, la sage-femme est un personnel qualifié qui surveille, soigne et conseille les futures mères pendant leur grossesse. La couche pile est des femmes qui méritent tout notre encouragement, toute notre considération. Les sages-femmes sont indéniablement de ce nombre.
Madame Denise Nyakeo Tshisekedi en a appelé à la révalorisation de cette profession et à sa réglementation notamment.
Permettez-moi de nous demander de réfléchir à une démarche coordonnée, inclusive et plus efficace d'accompagnement de la sage-femme dans l'exercice de son métier. Pour ce faire, il est important d'aboutir à une réglementation efficace et efficiente de la profession de sage-femme en RDC.
Même reconnaissance de la part du docteur Senen Houton de l'UNFPI en RDC. Car selon lui, le rôle de la sage-femme est incontournable en ce qu'elle contribue au droit à la santé sexuelle et reproductive de la femme et de la jeune fille.
Vous associez aux sages-femmes et à nous tous partenaires pour reconnaître le droit à la santé sexuelle et reproductive de la femme, lequel droit leur permet d'éviter les grossesses non désirées, de choisir le nombre d'enfants désirés ainsi que les moments de leur naissance, d'espacer ces naissances.
Pour sa part, la ministre du Genre, Chantal Safou, a reconnu le progrès réalisé en matière de la mortalité maternelle et néonatale, et c'est grâce au concours de la sage-femme.
La tendance du taux de mortalité maternelle et néonatale est à la baisse.
Enfin, les sages-femmes à l'honneur n'ont pas manqué de s'exprimer sur la reconnaissance et la sollicitude de la première dame. C'est le cas ici de Madame Bampindi Gabriel de la clinique d'Ngaliema.
C'est une sorte de reconnaissance parce qu'elle aussi, elle est du domaine. Elle a dit qu'elle va cheminer avec nous.
Notons que la journée internationale de la sage-femme est célébrée le 5 mai de chaque année. Le thème choisi cette année est « Sage-femme, défenseur des droits de la femme ».
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le magazine des Nations Unies revient encore sur l'objectif 2 des objectifs de développement durable ODD. Comme pour l'objectif 1, c'est Jean Amissi et Idesbald Chinamula, experts du PNUD RDC, qui répondent aux questions d'Honoré Missinga Kalala.
Jean Amissi, Idesbald Chinamula, bonjour. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui autour des ODD. La fois passée, vous êtes suffisamment expliqué sur le premier objectif, éliminer la pauvreté sous toutes ses formes. Aujourd'hui, parlons maintenant de l'objectif numéro 2, qui est d'éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. Jean Amissi, on peut dire que il y a un lien de cause à effet entre l'ODD 1 et l'ODD 2.
Effectivement, les ODD, sur le plan de principe, ils sont indivisibles. Ils ont donc des liens de causalité les uns avec les autres. Et une personne qui a faim, en principe, c'est une personne qui est en situation de pauvreté extrême.
Est-ce que vous avez à compléter par rapport à ces premiers éléments?
Effectivement, je vais attirer l'attention par rapport à ces ODD qui est particulier, qui est très important et qui montre effectivement les liens, comme le disait M. Amissi, entre la pauvreté et la malnutrition ou la malbouffe, comme on le dit. Vous allez voir que ce sont les personnes pauvres qui sont les mal nourries. Mal nourries pourquoi? Parce que la plupart des cas, elles ont tendance à se replier, à se remplir les ventres. Dans cette ODD, on ne parle pas seulement de se remplir les ventres, mais on parle également de se nourrir de manière qualitative. Et encore une fois, il y a des cibles par rapport à ces ODD. Il y a les cibles dirigées vers les nourrissons. Il faut que les nourrissons mangent déjà bien de la naissance. Et peut-être même avant, dans le ventre de leur maman, il faut naître. C'est là que le cerveau va se développer. Et à la naissance, bien sûr, avec les laits maternels, jusqu'à 6 ans, en fait, le cerveau est complètement fait. Après 6 ans, on ne développe plus le cerveau. Et si on a mal mangé, on a des retards de croissance, on a un problème intellectuel. L'autre cible, c'est les femmes enceintes qui nourrissent justement les nourrissons et en même temps qui portent les bébés et qui les nourrissent une fois que l'enfant est né. Donc c'est également une cible. Et l'autre cible, peut-être on peut parler des enfants, des adolescents qui ont besoin de se développer. C'est également une cible importante. Et on peut arriver aussi à parler des personnes âgées. Pour effectivement les aider, il faut également une nourriture de qualité. Donc dans chaque couche, à chaque étape, on a une cible particulière et on a une qualité de nourriture différente. Et ça, c'est des éléments très importants.
Oui, alors pour manger, il faut avoir de quoi manger. C'est là où on parle aussi de la promotion de l'agriculture. Dans cette ODD, il s'agit d'une agriculture durable. Jean-Michel, c'est quoi une agriculture durable?
Moi, je crois qu'il faut encore revenir un tout petit peu en arrière pour parler de la situation de la faim en RDC. Il faut vraiment relever que, premièrement, 64% de la population congolaise, c'est-à-dire environ 56 millions d'habitants, vivent sous le seuil de la pauvreté. Et avec des grandes disparités entre les provinces, des grandes disparités entre le monde rural et le monde urbain, des grandes disparités entre les hommes et les femmes. Et par rapport à la pauvreté, 48,5% de la population congolaise vivent dans la pauvreté multidimensionnelle sévère, c'est-à-dire ils vivent dans la faim. Mais la RDC a pris l'engagement d'éliminer la faim. Et un des moyens, justement, pour pouvoir donner de la nourriture à la population dont dispose l'État, c'est l'agriculture, qu'on peut appeler l'agriculture durable. C'est-à-dire donner la possibilité aux petits producteurs, aux villageois, aux paysans et aux agriculteurs de travailler la terre et de produire de la nourriture en quantité, en qualité suffisante.
Vous avez ajouté?
Oui, par rapport à l'agriculture d'abord durable, ça c'est je crois une question importante parce que l'agriculture est aujourd'hui également très très menacée. Aujourd'hui, les changements d'utilisation des terres, notamment par l'agriculture, constituent également un des enjeux du changement climatique. Aujourd'hui, l'agriculture est en train de subir des pertes importantes en termes, par exemple, des terres arables. Les études ont démontré aujourd'hui que à cause du changement climatique, la région Afrique est en train de connaître une sécheresse de ces terres. Et les projections parlent de 5 à 8, même 10% des pertes de terres arables que nous allons connaître en même temps que la population augmente. Donc ça, c'est un élément important. Une agriculture durable, c'est justement une agriculture qui va s'inscrire dans un schéma contraire, qui va permettre de préserver les écosystèmes pour son propre maintien. Parce que l'agriculture doit se développer dans un cadre, par exemple, en recourant à des engrais biologiques, en recourant justement à un système d'amendement des sols, d'enrichissement des sols, qui ne lessive pas les sols. Et cette agriculture, il faut la concilier avec les écosystèmes qui existent, les écosystèmes forestiers que nous avons, et où l'orienter sinon aller conquérir d'autres zones des savanes pour développer, amender les sols, enrichir les sols. Et l'agriculture durable, c'est en même temps une agriculture qui nourrit son homme. Ça, c'est un élément important. Il faut que l'homme qui travaille dans l'agriculture se nourrisse de cette agriculture. En 2000, l'agriculture de la RDC contribuait à 32% du PIB, c'est-à-dire de la création des richesses. 16 ans après, en 2016, l'agriculture de la RDC, qui continue à employer toujours 2/3 de la population congolaise, ne contribue plus qu'à 18% dans la création des richesses. Vous vous rendez compte que l'agriculture n'arrive pas, dans ces conditions-là, à nourrir son homme. Et dans ces conditions-là, on ne parlait pas d'une agriculture durable. Les petits producteurs ne sont pas valorisés dans leur travail. Et dans cette façon de faire les choses, on va aller justement à décimer le travail des fermiers, qui est pourtant un métier noble et important.
Et qu'est-ce qu'il faut faire pour valoriser justement les petits producteurs de la RDC?
Pour valoriser les petits producteurs de la RDC, il faut les connecter au marché, à pouvoir livrer. C'est vrai que le secteur privé va venir, mais il ne faut pas que non plus que le secteur privé vienne au détriment des petits producteurs. Il faut un modèle qui permet de valoriser le travail des petits producteurs qui représentent aujourd'hui 2/3 de la population active employée dans le secteur agricole. Les aider à avoir des entrepôts de stockage, à avoir des routes, des pistes rurales pour évacuer leur production. Quand vous circulez dans tous les Congo, vous êtes à Beni, vous êtes à Bouta, vous êtes dans les Massissi, vous êtes à Walungu, vous allez voir des avocats, vous allez voir des oranges même à 15 ans, vous voyez, beaucoup de productions agricoles qui sont en train de pourrir. Donc il y a des pertes post-récoltes très importantes et tout ça ne valorise pas les métiers.
Un ajout, Jean-Michel?
Oui, il faut encore ajouter 4 à 5 éléments essentiels si le gouvernement congolais veut promouvoir ou développer la production agricole rurale et donc permettre aux ménages dans les milieux ruraux de disposer d'un revenu suffisant et de sortir de la trappe de pauvreté. La première chose, c'est essayer de réhabiliter ou de construire des infrastructures routières rurales. pour permettre au fait de désenclaver les bassins agricoles, permettre à ces pauvres paysans d'accéder au marché dans les grandes villes. La deuxième chose, c'est l'accès à l'électricité qui va évidemment servir pour les besoins domestiques, mais qui devra permettre de faire fonctionner des infrastructures hydrauliques rurales qui vont aider à faire l'irrigation des champs pour améliorer au fait la productivité. La troisième chose, c'est de renforcer les capacités, à la fois en termes de gestion, mais aussi en termes des productions agricoles des paysans ruraux. C'est-à-dire les former d'abord dans les nouvelles techniques culturelles, mettre à leur disposition des semences améliorées et des engrais, qui soient des engrais biologiques, qui ne perturbent pas les sols, pour leur permettre d'accroître au fait leur productivité. Troisième chose, c'est mettre à leur disposition des silos de stockage et des équipements, non seulement des transformations, mais aussi des conservations de ces produits. C'est de développer des circuits de commercialisation de leurs produits. Il faut vraiment les aider à mettre en place des circuits de commercialisation qui garantissent un prix au producteur qui soit rémunérateur et qui garantit également l'achat d'un seuil minimum qui permet de préserver les revenus minimums des paysans agricoles. Et enfin, la dernière chose, c'est de donner accès à ces agriculteurs ruraux au crédit pour leur permettre d'investir dans des nouvelles technologies ou d'investir dans des équipements de conservation de produits, de stockage, etc., etc. Voilà, en fait, les 4-5 piliers importants sur lesquels le gouvernement doit agir et sur lesquels nous, en tant que PNUD, nous essayons d'accompagner les gouvernements pour permettre à ces populations rurales de se développer et de sortir de la faim, de l'extrême faim et de la pauvreté.
J'ai un ici, Desbal de Chinamoura, merci.
En plus bref, dans l'ex-Grand Kassai, la MONUSCO est en action dans le Sankoro pour favoriser un retour au calme et protéger les civils. C'est depuis le 17 mars dernier que le contingent marocain basé à Kananga, au Kassai central, a établi une base temporaire et mis en œuvre une patrouille de longue portée dans la province du Sankoro, respectivement à Lodja et à Lusambo. Cela à la suite des tensions intercommunautaires et entre partisans d'adversaires politiques autour de l'élection du gouverneur reportée à une date ultérieure par la CENI. Depuis la projection de la force de la MONUSCO dans ces localités, elle a réalisé des patrouilles quotidiennement pour suivre la situation de la protection des civils et rassurer la population, ce qui a permis le retour au calme dans ces deux localités en attendant la décision politique sur l'élection du gouverneur qui est attendue et qui aura probablement un impact sur la fin de ces tensions dans le Sankoro. Restons au Sankoro, toujours pour parler de la visite à Lodja le 29 avril 2019 de la chef du bureau de la MONUSCO Kananga, Sophie Stecker. Celle-ci était accompagnée de ses collègues et du commandant de la force de la mission et a échangé avec un acteur de la société civile, participé à la distribution des 230 kits scolaires offerts par le contingent marocain à l'école primaire Edingo et à la remise d'un trophée à un club de football des jeunes de la place. Au cours de sa rencontre avec Médar Elongué, l'administrateur du territoire de Lodja, ce dernier a évoqué plusieurs sujets sécuritaires, notamment des bénéfices de la présence de la force de la MONUSCO, les besoins et les défis sécuritaires dans son entité depuis la tension persistante entre partisans des candidats à l'élection non encore tenue du gouverneur de la province du Sankoro. Enfin, cette fois-ci au Nord Kivu, dans le cadre de l'exécution du mandat de la MONUSCO sur la protection des populations, plusieurs sections, notamment les affaires civiles, la protection de l'enfant, DDR et les affaires politiques, ont mené une mission conjointe de protection dans la zone de Nyangempati, dans le groupement de Bachali Mokoto, en territoire de Masisi. Cette mission a permis de faire une évaluation de la situation de la protection dans la dite zone après les affrontements répétés entre les groupes armés dus à l'absence d'autorité de l'État dans cette contrée. Cette descente sur le terrain a facilité l'extraction réussie des 205 enfants, dont 93 garçons et 12 filles, tous associés à des groupes armés.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Revenons à la journée de la presse célébrée le 3 mai dernier. L'UNPC, avec l'appui de l'UNESCO, a organisé un forum d'échange sur la thématique « Médias, quatrième pouvoir ». Pour quel journalisme ? Le professeur Jean-Lucien Kitima de l'IFASIC, un des orateurs, s'est penché sur le journalisme d'investigation. Il livre les différentes facettes de ce genre de journalisme très peu à la mode en RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Koko.
Professeur Jean-Lucien Kitima, bonjour.
Bonjour.
Votre exposé a porté sur la presse, le quatrième pouvoir, quel type de journalisme? Et vous avez mis un accent particulier sur le journalisme d'investigation. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est un journalisme d'investigation?
Le journalisme d'investigation n'est pas l'opposé du journalisme événementiel ou du journalisme classique. C'est un plus. Il y a une plus-value, il y a une valeur ajoutée à cette type de journalisme. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un type particulier qui exige un travail fouillé, un travail méthodique, parce que il est à la recherche de la vérité cachée. Je dirais même mieux que c'est le bon journalisme. Pourquoi j'ai dit que c'est le bon journalisme? Parce qu'au nom de la redevabilité, il est de faits avérés qui sont jalousement cachés par les tenants surtout du pouvoir ou tous ceux qui ont des intérêts particuliers à ne pas vouloir exposer sur la place du marché, comme dirait l'autre. Et voici que ce type de journalisme nous éclaire, nous apporte des précisions sur certains domaines de la société qui se trouvent être en porte-à-faux vis-à-vis du souhait minimum du citoyen au travers de la gestion de la Respublica, la gestion de la chose publique.
Et vous croyez sincèrement que dans les contextes de la République démocratique du Congo, les contextes actuels, que le journalisme d'investigation puisse supplanter effectivement le journalisme d'actualité événementielle?
Supplanter peut-être pas, parce que comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est un travail de fourmi, lentement et sûrement, parce que je suis confiant à ces propos que j'ai suivis en direct du président de la République lors de son investiture, souhaitant de tous ses voeux de voir la presse devenir libre, plurielle et indépendante. Il a même souhaité au travers de son discours d'investiture que la presse soit véritablement le quatrième pouvoir. Le pouvoir se conquiert, mais légalement. Et le pouvoir se gère rationnellement et le pouvoir se conserve méthodiquement. Je pense que déjà avec le ton qui est donné et avec l'arsenal juridique, la législation locale et le comportement du journaliste pourrait donner le ton, accorder des lettres de noblesse à ces journalismes appelés journalisme d'investigation.
Quelles sont les contraintes du journalisme d'investigation, notamment dans le contexte congolais?
Dans le contexte congolais, encore aujourd'hui, parce que nous attendons l'application, la matérialisation de ce que le chef de l'État a déjà donné comme un signal fort, les contraintes, les menaces par exemple, les contraintes, les intimidations, l'absence de moyens requis, c'est-à-dire que le journaliste, tant qu'il vivra dans la précarité, il sera difficile qu'il s'engage sur ce front-là. Et pas seulement cela, le journaliste qui est tenté par l'investigation devra savoir situer le source de référence, le source fiable, le source de première main. C'est pratiquement à la frontière, à la limite avec l'espionnage. Et tout ce qui se trouve être dérangé par ces fouineurs, eh bien, ils sont prêts à passer à la vitesse supérieure comme pour les inquiéter et même provoquer leur disparition.
Alors, la différence entre l'espionnage, vous venez d'en parler, et le journalisme d'investigation.
Le journalisme d'investigation, au travers de son mode opérationnel, eh bien, est très proche de l'espionnage. L'espionnage, je n'ose pas le confirmer comme tel, mais ce travail des fourmis, ce travail qui exige la discrétion, la précision, ce travail qui expose ces journalistes parce que il est de choses que d'aucuns ne souhaiteraient pas savoir porter au grand jour, eh bien il y a tous ces risques-là. Mais le fait de se jeter à l'eau, ça signifie alors que les journalistes d'investigation, c'est pratiquement un espion, mais un espion au service du bien communautaire, un espion qui n'a pas l'intention de nuire, mais un espion qui voudrait voir les choses prendre un bel envol, surtout au travers de nos états du tiers-monde et surtout à ces états de l'Afrique, pour que ils ne puissent pas gérer la Respublica comme un bien ou des biens familiaux, mais que les décideurs, les dirigeants se doivent de pouvoir rendre compte. Ce qui concerne cette question de rendre compte, il y a un faible chez nous. Les officiels, le dirigeant, le gouvernement ne se donnent pas la peine de rendre compte. Et pourtant, quand il est question de parler de l'électorat, eh bien, il sollicite la voix du souverain primaire. Mais quand le souverain primaire veut savoir comment se gère la chose publique, en ce moment-là, tout est opaque et la gestion elle est calamiteuse souvent.
Professeur, pour terminer, compte tenu des contraintes que vous venez d'énumérer, est-ce possible d'avoir vraiment un journalisme d'investigation en République démocratique du Congo?
Oui, parce qu'il est des dossiers qui intéressent, par exemple, les assassinats de professionnels des médias. Il est de ces journalistes qui ont commencé, qui ont évolué, mais je ne sais pas comment les choses étaient terminées. Sous Mobutu, mais il est trois jeunes gens à l'époque qui avaient retourné sous toutes les coutures et sous toutes les facettes le dossier Prima Curia. C'est une sorte de société secrète. Donc ça signifie que ce n'est peut-être pas encore très enraciné, mais il y a un début. Tout ce qui tente d'élucider des dossiers, phénomènes qui sont entourés quelque peu de grandes murailles. Par exemple, la présence de Bororo dans l'ancienne province orientale. De quoi ça retourne depuis tout ce temps jusqu'à aujourd'hui? Les phénomènes Kuluna, pourquoi ça persiste? Tant que l'on peut distribuer les cartons à qui mieux mieux, les rouges à celui qui le mérite pour qu'il attrape la rougeole, et le carton jaune pour que ces derniers attrapent la jaunisse, je crois que c'est déjà un début, un pas franchi vers ce type de journalisme qui aboutit, ce type de journalisme qui nous donne des détails et qui se trouve être quelque peu une thérapeutique de cheval par rapport à tous ceux qui pensent qu'ils sont dans l'impunité totale et qu'ils se trouvent être au-dessus de loi de la République.
Professeur Jean-Lucien Titima, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie pour m'avoir accordé de votre précieux temps.
Familles déplacées en détresse dans la province de Kalemie. Une alerte du Bureau des coordinations des affaires humanitaires de l'ONU. Cause de cette détresse, les combats entre milices Twa et Bantou dans la localité de Keshola, au sud-est de Kabalo, dans le secteur Lukushwa. Les détails avec Expedi Mombamoubi.
Depuis le début du mois d'avril passé, les violences ont repris entre les communautés Luba et Twa dans la localité Keshola. Conséquence, énumère Ocha, dans sa note d'information du 9 mai 2019, plusieurs villages incendiés, de nombreuses personnes assassinées, plusieurs cas de violences sexuelles, près de 2000 familles déplacées à l'intérieur de Kabalo et dans la zone sud du territoire voisin de Nouzou. Déjà, affirme Ocha, l'ONG catholique Relife Service démarre le 13 mai prochain une assistance en articles ménagers essentiels. Cependant, Ocha, tout comme beaucoup d'autres observateurs par ailleurs, met en garde contre le risque d'extension de ce conflit vers d'autres zones stables. D'après d'autres sources, depuis le 4 mai, une coalition de deux groupes de combattants Twa aurait été signalée dans la localité Ngoy, située à 65 km au sud-ouest de Nouzou. La coalition, dirigée par les leaders Twa Kabemba et Salanga, aurait pour objectif de lancer des attaques contre la population bantoue dans le village Keshola. La 61e brigade des FRDC, basée à Luizi, aurait confirmé ces informations. Kalemi, Expedi Mambamoubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Une question a été posée le 8 mai dernier à Florence Marchal lors de la conférence bi-hebdomadaire des Nations Unies en rapport avec une attaque intervenue le même jour à Butembo. Suivez cette question et la réponse.
C'est Naftali Bouamoutala pour la RTGA. Quelle est la situation actuellement à Butembo? Ce matin, on a noté la mort de 8 personnes et une personne blessée.
Alors effectivement, comme vous, nous avons eu un rapport ce matin faisant état de cette attaque à Butembo. La MONUSCO a immédiatement déployé une force de réaction rapide afin de soutenir nos partenaires congolais, les FRDC, qui étaient engagés contre les assaillants. Au moment où les informations nous sont parvenues, on pouvait noter que effectivement, parmi les assaillants, il y a eu des assaillants qui sont morts dans cette attaque. Aucun dommage du côté de la MONUSCO. Pour des raisons évidentes de sécurité, le service de sécurité des Nations Unies a suspendu tous les mouvements des personnels travaillant dans cette zone, dans laquelle actuellement sont déployées beaucoup de personnes, parce que vous savez que c'est aussi un épicentre aussi pour la maladie à virus Ebola. Voilà ce que je pouvais dire à mon niveau. Commandant, est-ce que vous avez des informations plus fraîches que les miennes à apporter en complément de ce que je viens de dire à propos de l'attaque de ce matin à Butembo.
Les informations, comme vous avez dit, madame, c'est la force a dépêché une force de réaction rapide pour porter assistance à nos partenaires FARDC et pour protéger la population. Mais s'il y a des mises à jour, on va...
Voilà où on en est par rapport à Butembo. Évidemment, on ne peut que déplorer cette nouvelle attaque contre des populations civiles et aussi dans un endroit où, une fois encore, la situation est déjà compliquée avec Ebola et on ne peut qu'encourager tout le monde à suivre les parcours sanitaires et médicaux qui sont indiqués pour pouvoir parvenir tous ensemble à éradiquer cette maladie dans la province du Nord Kivu.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Retenez ces quelques rendez-vous dans vos agendas pour la semaine qui commence. 15 mai, journée internationale des familles, et le 17 mai, interviendra la journée des télécommunications. C'est la fin de cette émission. Honoré Missenga était au reportage. Jean-Pierre Lali Coco l'a réalisé et coordonné sous la supervision de Martin Sebujangwe. Moi, c'est Billy Ivan Lutumba. Je vous l'ai présenté avec le concours technique de Mimi Kindou. Toute l'équipe vous donne rendez-vous dimanche prochain. En attendant, excellente journée dominicale en compagnie des programmes de Radio Capi.